Chapitre 31. Lorsque la première explosion fit trembler le ciel, Didi était au milieu de la clairière et elle se dirigeait vers le monticule de neige où Quizzo aboyait avec excitation et énergie. Ensuite, le monde devint blanc. De la neige jaillit et gicla dans une violente détonation qui fit tout vibrer. Didi eut tout juste le temps de lever les bras, ce qui ne l'empêcha pas de sentir un millier de piqûres d'épingles. Les aboiements graves de Quizzo se muèrent aussitôt en un hurlement de détresse. Un cri retentit. Puis une nouvelle explosion les secoua, il y eut plusieurs autres cris et Didi tomba en arrière, la tête entre les bras pour se protéger.
« Quizzo ! Quizzo !»
criait quelqu'un, sans doute Nelson.
« Didi ! Didi ! Didi !»
criait un autre, sans doute Bobby. Elle ouvrit les yeux et vit Bobby arriver comme un fou depuis l'autre bout de la clairière, enfoncé jusqu'à mi-mollet dans la neige, le visage blême de panique.
« Est-ce que ça va? Parle-moi, Didi! Parle-moi, merde !»«
Quoi? Quoi? Quoi ?»
Elle cligna des yeux, secoua la glace et la neige de ses cheveux, cligna encore. Ses oreilles bourdonnaient, comme sous pression. Elle bâilla à s'en décrocher la mâchoire pour y remédier. Bobby, arrivé à ses côtés, l'avait prise par les épaules.
« Tu vas bien? Tu vas bien? Tu vas bien ?»
Les lèvres de Bobby bougeaient. Une seconde s'écoula encore avant que ces mots ne pénètrent le brouhaha qui régnait dans la tête de Didi. Elle hocha faiblement la tête, le repoussa pour faire un état des lieux. Bras, jambes et surtout ventre. Dans l'ensemble, elle avait l'air d'être en un seul morceau. Elle s'était trouvée à une distance suffisante de l'explosion et la neige avait amorti sa chute. Elle n'était pas blessée, seulement étourdie et hébétée. Elle laissa Bobby l'aider à se relever et évalua le reste des dégâts. Le monticule de neige désigné par le flair aiguisé de Quizzo s'était désintégré. À la place, un trou de terre brune, jonché de lambeaux d'arbustes, de feuilles et... quelle horreur! De tissu rose. Quizzo à l'écart, le museau enfoui dans la neige, gémissait et battait du flanc. Nelson, au-dessus de son chien, lui caressait doucement les oreilles et murmurait tout bas des paroles apaisantes à son animal traumatisé. Les autres chiens de recherche, arrêtés sur leurs pas, hurlaient à la mort.
« Collègues en difficulté »,
songea Didi.
Voilà ce que les chiens disaient au monde.
Elle eut envie d'aboyer avec eux jusqu'à ce que s'atténue cette terrible et oppressante sensation de rage et d'impuissance. Cassandra Murray, chef d'équipe, avait déjà dégainé son portable et crispée, elle demandait un vétérinaire. Des agents de la police municipale arpentaient la scène, main sur l'étui du pistolet, guettant des signes de danger immédiat.
« Stop !»
cria soudain Bobby. Les agents s'immobilisèrent. Les maîtres chiens se figèrent. Ils regardaient la neige autour d'eux. Didi, qui se décrochait toujours la mâchoire pour lutter contre le bourdonnement, en fit autant. Elle vit des bouts de tissu rose vif, un jean déchiqueté, ce qui avait peut-être été une chaussure de tennis d'enfant. Elle vit du rouge, du marron et du vert. Elle vit des morceaux. Il n'y avait pas d'autre mot. Là où il y avait eu les restes d'un corps enseveli, il n'y avait plus que des morceaux projetés dans toutes les directions. La clairière tout entière venait de devenir zone de récupération de cadavres. Ce qui signifiait qu'il fallait qu'ils évacuent tous jusqu'au dernier pour limiter les contaminations. Il fallait boucler le secteur, le contrôler, et il fallait qu'ils contactent immédiatement les services du légiste sans parler de faire venir des techniciens de scène de crime par quart entier. Ils avaient des fragments de corps humain, ils avaient des cheveux, des fibres, ils avaient une montagne de travail.
« Mon Dieu !»
pensa confusément Didi, les oreilles encore bourdonnantes, les bras encore cuisants. Les chiens hurlaient à n'en plus finir.
Elle ne pouvait pas. Ce n'était pas...
Didi baissa les yeux et s'aperçut qu'elle avait des filaments roses accrochés à la chaussure. Un morceau de doudoune, peut-être, ou de la couverture préférée d'une petite fille. Sophie Léonie, avec ses grands yeux bleus et son visage en forme de cœur. Sophie Léonie, avec ses cheveux bruns et son sourire édenté, qui adorait grimper aux arbres et avait horreur de dormir dans le noir. Sophie Léonie.
J'aime ma fille,
lui avait dit Tessa dans cette même clairière. J'aime ma fille.
Mais quel genre de mère pouvait faire une chose pareille?
Alors d'un seul coup, le cerveau de Didi embraya et elle découvrit la pièce suivante du puzzle.
« L'agent Fisk !» s'écria-t-elle avec effarement en prenant Bobby par le bras. « Il faut alerter l'agent Fisk ! Appelez-le par radio ! Vite !»
Bobby avait déjà sorti l'émetteur portatif et appuyé sur le bouton d'émission.
« Agent Fisk ! Répondez ! Agent Fisk ! Agent Fisk !»
Mais il n'y eut pas de réponse. Évidemment qu'il n'y avait pas de réponse. Pour quelle autre raison Tessa Léonie aurait-elle exigé de les conduire elle-même au corps ? Et pourquoi aurait-elle piégé son enfant avec des explosifs ?
Didi se tourna vers ses collègues. « Collègues en difficulté !»
cria-t-elle, et ils replongèrent dans les bois comme un seul homme. Tout paraissait tellement évident après coup. Didi n'en revenait pas de ne rien avoir vu venir. Tessa Léonie avait conservé le corps de son mari congelé pendant au moins 24 heures. Pourquoi aussi longtemps ? Pourquoi un plan aussi élaboré pour se défaire du corps de sa fille ? Parce que Tessa Léonie ne s'était pas seulement débarrassée d'un cadavre, elle avait planqué son bon de sortie de prison. Et Didi avait joué pile dans son jeu. Elle avait personnellement fait sortir Tessa Léonie de la maison d'arrêt de Suffolk County. Elle avait personnellement conduit une double meurtrière présumée dans un coin perdu au fin fond du Massachusetts. Et ensuite, elle avait personnellement escorté une équipe cynophile jusqu'à un cadavre piégé, ce qui avait permis à Tessa Léonie de s'évanouir dans la nature.
« Mais qu'est-ce que je peux être conne !»
s'exclama-t-elle 2 heures plus tard. Ils étaient toujours sur leur site au milieu de nulle part, où des véhicules de la police de Boston et du bureau du shérif local étaient maintenant garés par choc contre par choc sur plusieurs centaines de mètres. L'ambulance était arrivée la première, et les ambulanciers avaient voulu soigner l'agent Fisk, mais lorsque celui-ci les avait repoussés, gênés, humiliés, et en tout état de cause pas d'humeur à coopérer, ils s'étaient occupés de Quizzo. La pauvre bête, qui s'était trouvée au plus près de l'explosion, souffrait d'une perforation du tympan et de brûlures au museau. « Le tympan cicatriserait naturellement comme chez les hommes », assurèrent les ambulanciers à Nelson. En attendant, il conduirait volontiers le chien chez son vétérinaire. Nelson, manifestement très secoué, les avait pris au mot. Les autres membres de l'équipe de recherche avaient rechargé sa camionnette, avec notamment une Kelly et un Skyler affligés. Il ferait un débrief avec Didi le lendemain matin, lui avait assuré Cassandra. Mais pour l'heure, ils avaient besoin de reprendre leurs esprits et de décompresser. D'ordinaire, leurs opérations de recherche les conduisaient à des découvertes tangibles, pas à des bombes artisanales. L'équipe de recherche sur le départ, Didi appela Ben, le légiste. Ils avaient des fragments de corps, il leur fallait impérativement de l'aide. On progressait. Les agents s'étaient retirés. Les techniciens de scène de crime avaient pris leur place. Et les recherches pour retrouver l'ancien agent de la police d'État, Tessa Léonie, maintenant officiellement en cavale, passèrent à la vitesse supérieure. À en croire Fisk, il avait oublié de lui remettre ses fers aux chevilles. Autre aveu humiliant qui le conduirait sans doute à s'envoyer une demi-bouteille de whisky dans la soirée. Tessa s'était aussi emparée de ses clés, donc il y avait de fortes chances qu'elle ait désormais les mains libres. Elle avait pris son téléphone portable, mais pas son arme de poing, ce qui était une bonne nouvelle pour l'équipe de recherche de fugitifs et signifiait sans doute que Fisk avait échappé de peu à la mort. L'autre moitié de la bouteille de whisky, sans doute demain soir. La dernière fois qu'on l'avait vue, Tessa portait un blouson noir de la police de Boston, ouvert sur le devant, et une fine combinaison orange. À pied, sans vivres, sans bonnet ni gants, et en pleine cambrousse par-dessus le marché, personne ne pensait qu'elle irait loin. L'adrénaline la porterait pendant 2 ou 3 kilomètres, mais la couche de neige molle rendrait la course épuisante et fournirait à ses poursuivants une piste que même un aveugle pourrait suivre. L'équipe de recherche de fugitifs s'équipa, s'élança. Il restait 1 heure avant la tombée de la nuit. Ils pensaient que cela suffirait, mais emportaient des projecteurs au cas où. 20 agents contre une évadée aux abois. Ils allaient la choper, promit le responsable à Didi. On pouvait lui faire confiance pour ne pas laisser courir un assassin d'enfant. Autour de Didi d'être humiliée, mais pas de bouteille de whisky pour elle ce soir. Juste une nouvelle scène de crime à traiter, une réunion de cellules d'enquête à animer et un patron à mettre au courant. Patron qui serait sans doute très mécontent d'elle, aucune importance. Elle-même en était à peu près au même point. Alors elle fit ce qu'elle faisait toujours. Elle retourna sur la scène de crime, Bobby à ses côtés. Le légiste était venu sur place avec son équipe. Vêtus de combinaisons, ils déposaient délicatement des fragments de corps dans des sacs rouges pour déchets biomédicaux. Les techniciens de scènes de crime passaient dans leur sillage et recueillaient d'autres débris, parmi lesquels on pouvait espérer retrouver les composants du dispositif incendiaire. De nos jours, fabriquer une bombe artisanale n'a rien de bien sorcier. 10 minutes sur Internet, quelques courses à la quincaillerie et le tour était joué. Tessa était une femme intelligente. Assembler des éléments explosifs sensibles au contact, les placer avec le corps dans le creux rempli de neige, couvrir et laisser mijoter. Les chiens et la police arrivent, Tessa se retire, boum font les bombes, quoi qu'est-ce, fait le garde chiourme, et Tessa profite de l'occasion pour neutraliser un collègue et prendre la poudre d'escampette. Bonjour la bande déclopée, bye bye la police de Boston. Du point de vue de Didi, chaque élément de preuve recueilli était un nouveau clou enfoncé dans le cercueil de Tessa Léonie et elle les voulait tous, jusqu'au dernier. Ben leva les yeux à l'arrivée de Bobby et Didi. Il tendit son sac à l'un de ses assistants et vint les rejoindre. « Alors ?» demanda aussitôt Didi. Le légiste, la quarantaine, vigoureux, cheveux gris métalliques coupés en brosse, hésita. Il croisa les bras sur son torse puissant.
« Nous avons recueilli des matières organiques et des ossements qui correspondraient à un cadavre, »
reconnut-il. « Sophie Léonie ?» En guise de réponse, le légiste lui montra sur sa main gantée un mince fragment d'os blanc, quelques 6 ou 7 centimètres de long, souillé de terre et de morceaux de feuilles.
« Un segment de côte, » dit-il. « La longueur totale serait cohérente avec un enfant de 6 ans. »
Didi déglutit, se força à hocher vivement la tête. L'os était plus petit qu'elle ne l'aurait imaginé. D'une incroyable délicatesse.
Trouvez une étiquette de vêtements taille 6 ans, continua Ben. Les lambeaux de tissu sont roses en majorité. Ce serait aussi cohérent avec une petite fille.
Didi hocha de nouveau la tête sans quitter le fragment d'os des yeux. Ben le repoussa sur le côté de sa main et découvrit un débris plus petit, de la taille d'un grain de maïs.
Une dent, qui correspondrait aussi à une fillette prépubère. Sauf qu'elle n'a pas de racines,
indiqua le légiste avec perplexité.
En général, quand on retrouve une dent parmi des restes, la racine est encore attachée, à moins que la dent n'ait déjà été branlante.
Le légiste semblait se parler à lui-même plutôt qu'à Didi ou Bobby.
« Ce qui serait plausible chez une enfant de 6 ans. Une dent branlante avec la puissance du souffle. Ouais, je peux imaginer ça. »
« Donc la dent appartenait très certainement à Sophie Léonie ?» insista Didi.
« La dent appartenait très certainement à une fillette prépubère, » corrigea Ben. « Je ne peux pas en dire plus à l'heure qu'il est. Il faut que je rapatrie les restes dans mon labo. Une radio dentaire serait très utile même si nous n'avons encore retrouvé ni crâne, ni os maxillaire. Encore du pain sur la planche. »
En d'autres termes, songea Didi, Tessa Léonie avait fabriqué une bombe suffisamment puissante pour éjecter une dent hors du crâne de sa fille. Un flocon de neige tomba en voltigeant, puis un autre et un autre. Ils levèrent tous les yeux vers le ciel, où les nuages gris menaçants avaient fini par arriver.
« Une bâche !» dit immédiatement Ben en se précipitant vers son assistant. « Protégez les restes, ne traînons pas !»
Puis il s'éloigna en courant. Didi sortit de la clairière et se cacha derrière un buisson particulièrement dense, où, pliée en deux, elle vomit de la bile. Qu'avait dit Tessa ? Que l'amour que Didi ressentait actuellement pour son enfant à naître n'était rien comparé à l'amour qu'elle ressentirait dans 1 an, et 1 an après, et encore 1 an après. 6 années de cet amour, 6 années... Et comment une femme? Comment une mère? Comment pouvait-on un instant border son enfant dans son lit et le suivant chercher l'endroit idéal pour l'enterrer? Comment faire un câlin du soir à sa fille de 6 ans et ensuite piéger son corps avec des explosifs? « J'aime ma fille », avait dit Tessa. « J'aime ma fille ! » « Quelle foutue salope !» Didi fut prise d'un nouveau haut-le-cœur. Bobby était à côté d'elle. Elle le sentit repousser ses cheveux en arrière. Il lui tendit une bouteille d'eau. Elle s'en servit pour se rincer la bouche et leva son visage rougi vers le ciel pour sentir la neige sur ses joues. « Allez, viens, je te ramène à la voiture. Il est temps que tu te reposes un peu, Didi. Ça va aller, vraiment, ça va aller. » Il la prit par la main et la tira à travers bois. Abattue, elle mettait un pied devant l'autre en se disant que Bobby était un menteur. Que, lorsqu'on a eu sous les yeux le corps pulvérisé d'une petite fille, ça ne pouvait plus jamais aller bien. Il devrait retourner au QG et sortir de là avant que le chemin de terre ne devienne impraticable. Il fallait qu'elle se prépare pour la conférence de presse à laquelle elle ne couperait pas.
« Bonne nouvelle, nous avons sans doute retrouvé le corps de Sophie Léonie. Mauvaise nouvelle, nous avons perdu sa mère qui, après une brillante carrière dans la police, a très certainement tué toute sa famille. »
Ils arrivèrent à la voiture. Bobby ouvrit la portière passager. Elle se glissa à l'intérieur. En vrac, les nerfs à vif. Elle aurait donné pratiquement n'importe quoi pour être quelqu'un d'autre. Elle ne voulait plus être enquêtrice. Le commandant Didi Warren n'avait pas coincé le criminel. Le commandant Didi Warren n'avait pas sauvé l'enfant. Le commandant Didi Warren était elle-même sur le point de devenir mère et regarder Tessa Léonie, policière hors pair, qui avait tué, enterré et ensuite fait exploser sa propre fille. Et qu'est-ce qu'on disait déjà des femmes policières qui deviennent mères? Mais qu'est-ce que Didi avait dans le crâne? Elle n'aurait pas dû être enceinte. Elle n'était pas assez forte. Derrière une façade sévère de plus en plus fissurée, il n'y avait qu'un immense puits de tristesse. Tous les cadavres qu'elle avait examinés au fil des ans. Les autres enfants, qui n'étaient pas rentrés chez eux. Les visages sans remords des parents, oncles, grands-parents ou même voisins qui avaient commis les crimes. Le monde était cruel. Elle ne résolvait une affaire de meurtre que pour passer à la suivante, ne mettait un parent sadique à l'ombre que pour voir un mari violent libéré le lendemain. Et la ronde ne s'arrêtait jamais. Didi était condamné à passer le restant de sa carrière à arpenter des coins perdus à la recherche de petits corps sans vie qui n'avaient jamais été aimés ni même désirés. Elle voulait juste ramener Sophie chez elle. Sauver au moins cet enfant-là, changer au moins cette petite chose-là dans l'univers et maintenant... Maintenant... Chut. Bobby lui caressait les cheveux. Est-ce qu'elle pleurait? Peut-être, mais ça ne suffisait pas. Elle posa sa joue baignée de larmes au creux de l'épaule de Bobby. Sentit sa chaleur frémissante. Ses lèvres trouvèrent son cou au goût de sel. Et rien au monde ne lui parut plus naturel que de pencher la tête en arrière pour joindre ses lèvres à celles de Bobby. Il ne se déroba pas. Au contraire, elle sentit ses mains étreindre ses épaules. Alors elle l'embrassa à nouveau. Cet homme qui avait été son amant, une des rares personnes qu'elle considérait comme un pilier. Le temps fut suspendu. Une ou deux fractions de seconde où elle n'eut pas à réfléchir, seulement à ressentir. Puis les mains de Bobby se crispèrent à nouveau. Il la repoussa en douceur. Jusqu'à ce qu'elle soit bien calée dans le siège passager et lui sur le siège conducteur, quelques bonnes dizaines de centimètres les séparant. « Non, » dit-il. Didi était sans voix. Elle prenait peu à peu conscience de la gravité de ce qu'elle venait de faire. Elle jeta des regards autour de la petite voiture, cherchant désespérément une échappatoire. « C'était juste un moment, » continua Bobby, d'une voix rauque. Il s'interrompit, se racla la gorge et répéta « Un moment. Mais j'ai Annabelle et tu as Alex. On n'est pas assez cons pour gâcher la chance qu'on a. » Didi hocha la tête. Didi. Tout de suite, elle secoua la tête. Elle ne voulait plus rien entendre. Elle avait fait assez de conneries comme ça. Un moment. Comme il avait dit. Un moment. La vie était une succession de moments. Sauf qu'elle avait toujours eu un faible pour Bobby Dodge. Elle l'avait laissé partir et ne s'en était jamais remise. Si elle parlait maintenant, elle allait fondre en larmes et c'était idiot. Bobby méritait mieux, Alex méritait mieux, ils méritaient tous mieux. Alors elle se prit à repenser à Tessa Léonie et ne put s'empêcher de faire le rapprochement. Deux femmes, si compétentes sur le plan professionnel et tellement nullissimes dans leur vie personnelle. La radio du tableau de bord se mit à crépiter. Didi sauta dessus, espérant de bonnes nouvelles. C'était l'équipe de recherche. Agent Landley au rapport. Ils avaient suivi la trace de Tessa sur 3,5 km. Elle avait longé le chemin de terre enneigé jusqu'au croisement avec la route. Là, la piste de traces de pas s'était interrompue, remplacée par des empreintes de pneus fraîches. Tout laissait à penser que Tessa Léonie n'était plus seule, ni à pied. Elle avait complice et véhicule. Elle s'était envolée.